Dans ce journal, on revient sur cet incendie hier à Punaouia. On vous parle aussi de ce bateau de pêche qui s'était échoué au Tuamotu avant d'aller faire un tour au Vatican. Et ce journal est présenté par Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Harry, bonjour à toutes et à tous.
On revient sur l'incendie de l'ex-méridien Tahiti.
Oui, cet incendie qui a ravagé le restaurant annexe de l'ancien hôtel et son bar. Une enquête a été ouverte par le parquet. Ce mercredi, les techniciens en identification criminelle de la gendarmerie, soutenus par un expert incendie privé, se sont rendus sur les lieux pour tenter de trouver d'éventuelles explications. Et après plus d'une heure d'inspection et de nombreuses suppositions, beaucoup de zones d'ombre demeure. L'heure de départ du brasier, mais aussi la localisation de son foyer ou encore son caractère criminel ou non, tout ça reste des questions en suspens. Alors l'expert incendie semble pencher pour un incident électrique, une cause qui représente selon lui 95% des incendies au Fénois, contrairement aux agents de la gendarmerie qui évoquaient davantage une cause criminelle. Pour Vincent Dubois, le directeur du groupe Moana Nui, choisi en juillet dernier pour reprendre les murs, c'est nécessairement une intervention humaine qui est à l'origine de l'incident, puisqu'un audit du site et de ses installations électrique a été menée ces dernières semaines. Cet incendie qui aura forcément un impact sur les plans du groupe Moana Nui, qui va devoir repenser l'espace alors qu'il était seulement prévu de rafraîchir un peu la zone. L'enquête se poursuit et les agents évoquent d'ores et déjà le contrôle du tableau électrique de l'ancien hôtel, mais aussi la nécessité d'avoir une vue aérienne du site.
Kuraura, on part au Tuamotu maintenant pour reparler de Ping Tairang.
Oui, on l'aurait presque oublié, ce bateau de pêche de 40 mètres qui s'était échoué sur l'atoll d'Anua Nurunga en juillet 2021. L'épave avait été retirée l'année suivante, des procédures judiciaires avaient été lancées contre l'armateur chinois, un autre de ses navires avait été saisi et le propriétaire avait dû s'acquitter d'une caution de 150 millions pour le retrouver. Bref, le dossier avait suivi son cours, mais on avait presque oublié de se poser une question importante. Pourquoi le Ping Tairang s'était-il échoué ? Eh bien, un bureau est venu répondre à cette question la nuit dernière, le BEA Mer, Bureau d'enquête sur les événements de mer, qui a publié un rapport d'une trentaine de pages sur le sujet. Et qu'est-ce qu'on y apprend, Charlie René ?
On y apprend surtout que le navire de pêche n'avait pas mis toutes les chances de son côté pour éviter les accidents. D'après le BEA, le radar de ce bateau de 40 mètres était hors service depuis plusieurs mois lors de l'accident. Un radar pourtant obligatoire pour ce type d'embarcation. Le Ping Tairang naviguait donc avec des cartes électroniques et visiblement, elles ont été mal utilisées. Les marins de quart ce soir-là ont fixé une trajectoire du navire en regardant une carte à petite échelle sur laquelle il était impossible de distinguer des bandes de terre comme celle de l'atoll d'Anua Nurunga. Ont-ils eu la flemme de zoomer ? Plutôt un problème de formation maritime, relève le BEA, qui rappelle que la Chine n'a pas signé toutes les conventions internationales en la matière. L'autre problème qu'il y a eu à bord, c'est la communication au sein de l'équipage, d'abord avec une organisation rigide qui a empêché la prise d'initiative, et puis avec la compagnie aussi. Un navire de cette taille est normalement en contact permanent avec son armateur. Dans le cas du Ping Tairang, la panne de radar n'avait même pas été signalée depuis 3 mois. Valdemar.
Voilà, un rapport du bureau d'enquête sur les événements de mer qui recommande donc du changement sur l'organisation de l'armement, sur la qualification des officiers, mais aussi sur la traduction des documents de bord en chinois. Certains étaient en anglais, langue que personne à bord du Ping Tairang ne savait parler.
Retour à Tahiti, on parle de ces négociations.
Oui, négociations de la dernière chance pour deux mouvements sociaux qui menacent d'entrer en action dès demain. On vous en avait parlé, le premier concerne Air Tahiti, où l'antenne locale du syndicat des pilotes a déposé un préavis en fin de semaine dernière. La direction avait bon espoir ce matin de trouver un accord avant la fin de journée. Discussion en cours aussi du côté des dépôts pétroliers où c'est la CSIP qui menace de faire grève là aussi ce jeudi. Les conséquences de ce mouvement qui pourrait concerner à la fois les stockages d'essence, de diesel et de carburant aérien pourraient être plus larges. Une réunion a notamment débuté à 11h du côté de la STDP, un dépôt rassemblant Pétropole et Total. On vous tiendra au courant de cette évolution, de ces discussions sur Radio1.pf.
On poursuit en allant à Tarahoy.
Oui, Tarahoy, où a commencé l'examen du budget 2024 du pays et des réformes fiscales qui vont avec. Des réformes qui, vous le savez, ont causé beaucoup de remous avec des contestations vigoureuses dans le monde économique et des débats houleux au sein même de la majorité Tavini. Les Bleu Ciel avaient accordé leur violon ce matin en présentant des projets de textes épurés, des articles moins consensuels. Mais l'opposition s'est chargée de rappeler les derniers épisodes des débats. Nui Holoreille a notamment dénoncé une violation du règlement intérieur sur la procédure des textes en commission. Aireya Porinesi ne participera pas au vote, pas plus que le Tapura. Sa porte-parole, Tepuara Oriteri Itahi, fait le constat d'une majorité fracturée. Écoutez.
Après tous ces retournements de situation et une guerre des chefs qui atteint son paroxysme, la majorité apparaît plus fragile qu'on ne pouvait l'imaginer. Et vous avez beau nier l'évidence, ce que vous qualifiez de débat démocratique, nous n'y voyons que les ferments d'une profonde instabilité et d'une atteinte grave à la confiance générale. Et lorsque la confiance n'est plus au rendez-vous, la machine se grippe. tout simplement.
Côté Tavigny, on a insisté ce matin sur les objectifs de justice fiscale qui ont gouverné à certains choix de ces réformes, notamment les fins d'exonération sur les SCI ou sur les revenus de l'hôtellerie. Le ministre des Finances, Teveiti Pomare, a quant à lui précisé que les grandes réformes de fond sur la protection sociale, le développement économique ou la fiscalité n'arriveront que l'année prochaine. La fameuse contribution sur l'immobilier a d'ailleurs été renvoyée à 2024 après discussion avec le groupe indépendantiste de l'Assemblée. Teveiti Pomare insiste aussi sur sa première priorité de 2024, la lutte contre le pouvoir d'achat.
Je planifie à ce titre pour 2024 des travaux de réforme de la fiscalité, des mécanismes d'exonération, du code de la concurrence, des outils de contrôle des prix et des marges. Je souhaite associer le gouvernement, notre Assemblée et l'ensemble des acteurs à ces travaux. Le travail sera long, difficile, avant de trouver des solutions pérennes au bénéfice de tous, de toute notre société, notre communauté.
Voilà, une séance de l'Assemblée qui est donc en cours. À noter que la réforme des taxes hôtelières, voulue entre autres par Gaston Tong-Sang et qui avait trouvé un soutien du côté de certains élus Tavigny, eh bien, elle a finalement été exclue de l'ordre du jour. Rendez-vous là aussi en 2024.
Le pape aimerait visiter la Polynésie.
Oui, le pape François, le chef de l'Église catholique, se projette en 2024 avec un voyage annoncé en Belgique et deux autres à l'étude, l'Argentine, son pays natal, et la Polynésie. C'est ce qu'écrit Vatican News ce mercredi. S'il est confirmé, ce voyage dans un territoire d'outre-mer serait historique puisque jamais un pape ne s'est rendu en Polynésie française. Une visite, ce serait donc une des rares en outre-mer puisque jusqu'ici, seule la Réunion a eu ce privilège. C'était en 1989 avec Jean-Paul II.
Au tribunal correctionnel, un homme de 28 ans a été condamné à 3 ans ferme hier.
Il a été reconnu coupable de violence et agression sexuelle envers sa concubine avec qui il a eu une petite fille. Jaloux, paresseux et fumeur de paca, il cognait régulièrement sa compagne, lui imposait des rapports sexuels, lui prenait son salaire et menaçait de la tuer si elle portait plainte. C'est finalement le témoignage de l'enfant qui a encouragé la mère à aller déposer plainte justement. Le tribunal a donc condamné Sontané à 3 ans de prison ferme avec mandat de dépôt. Il sera inscrit au fichier des délinquants sexuels. Le compte-rendu complet de cette audience sur notre site radio1.pf.
Du sport pour terminer, on est allé voir les Tiquitois.
Oui, un peu plus de 2 mois de la Coupe du Monde, la sélection tahitienne de beach soccer peaufine sa préparation. Depuis 3 semaines, les protégés de Teva Zaveroni s'entraînent tous les soirs sous les conseils avisés d'un Suisse, Angelo Chirenzi, qui est le fidèle soutien des Rouges depuis les premiers pas de l'équipe dans la discipline. Alors, lors du dernier mondial, la sélection s'était inclinée en quart de finale. Pour cette édition prévue en février à Dubaï, tout semble avoir été mis en œuvre pour que l'équipe puisse performer. Dès le 5 janvier, les Tahitiens s'envolent donc pour 4 semaines d'entraînement au Brésil avant de se rendre dans un autre camp d'entraînement en Arabie Saoudite. Les détails avec Angelo Chirenzi.
On cherche de récupérer une belle physique. On va travailler sur ça en Brésil. Et après, on va sur la tactique, technique et de chercher la mentalité pour faire un bon Coupe du Monde. Il y a des nouveaux joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience. On a des joueurs avec beaucoup d'expérience, mais un peu plus vieux. Ça va être un bon mix. Je pense qu'ils ont une belle mentalité, les joueurs. Ils aiment travailler et c'est aussi une bonne atmosphère pour travailler. Et ça, c'est bon. Ça, c'est une bonne base pour avoir du succès.
Voilà, ils seront finalement 12 joueurs à décoller le 5 janvier pour le Brésil, puis l'Arabie Saoudite et enfin Dubaï, où la sélection disputera son premier match le 15 février contre l'Argentine, avant d'affronter l'Espagne, puis l'Iran. Voilà, c'est la fin de cette édition. Avant de nous quitter, un petit rappel, juste avant ce journal, le patron d'ATN, Michel Monvoisin, était l'invité de la rédaction. Une interview à retrouver sur notre page Facebook. Pour l'actualité, rendez-vous avec le flash de 16h.